money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
AMI, Alena, AGCS, ZLEA, AECG.
That makes the world go around, that clinking, clanking sound. That makes the world go round.
Ces curieux acronymes ne vous disent rien, et pourtant, ils jouent un rôle énorme dans notre système actuel de globalisation. Toutes ces lettres étranges représentent le nom des grands accords économiques mondiaux de libre-échange. Pour Claude Vaillancourt, président de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, ces ententes entre gouvernements et multinationales sont antidémocratiques.
Les accords commerciaux et à peu près tous ceux qui sont signés par le Canada permettent à des entreprises privées de poursuivre les gouvernements si ceux-ci, par des lois, des réglementations, leur empêchent de réaliser des profits, tout simplement. Tous les accords, ça veut dire l'ALENA, entre autres, ça c'est le premier, le fameux chapitre 11 de l'ALENA, il y a peut-être des auditeurs qui ont entendu parler de ça. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Donc ça, c'est le terme technique, là. On appelle ça aussi la protection de l'investissement étranger. Donc ça se retrouve systématiquement dans tous les accords signés par le gouvernement canadien.
C'est assez complexe et à la fois très concret. Ces grandes entreprises peuvent porter plainte contre le ou les gouvernements qui ont signé un accord avec elles si une décision ne leur convient pas. Claude Vaillancourt nous illustre le problème avec un exemple récent.
C'est la compagnie Lone Pine Resources, qui est une compagnie canadienne, mais qui va se prendre un siège social dans le paradis fiscal du Delaware aux États-Unis, qui va poursuivre le gouvernement canadien parce que le gouvernement québécois a posé un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste dans le fleuve Saint-Laurent, du pétrole de schiste aussi. Alors, cette compagnie avait un contrat, alors ils se disent, écoutez, ça n'a pas de bon sens qu'un gouvernement décide démocratiquement de revenir sur ce contrat qui a été signé. Alors, nous allons poursuivre le gouvernement.
Jusqu'ici, rien de choquant. Si un accord n'est pas respecté, c'est dans la logique des choses qu'un des partis puisse se plaindre à la justice. Le problème existe plutôt au niveau des tribunaux qui gèrent ces affaires. Ils sont différents des tribunaux classiques que l'on connaît. Amici Manirabona, professeur spécialisé dans les crimes économiques internationaux à l'Université de Montréal, revient sur les particularités de ces tribunaux.
Il y a des tribunaux, notamment au niveau de l'ALENA, il y a des tribunaux d'arbitrage, il y a un tribunal au niveau de la Banque mondiale, le Centre international de règlement des différends. Généralement, c'est deux tribunaux-là qui reçoivent ces plaintes. C'est pas des tribunaux classiques qu'on connaît ici où il y a des juges professionnels, ainsi de suite. Là-bas, c'est des arbitres qui sont choisis généralement par les partis. Puis, les arbitres, entre eux, ils choisissent leur président. Et puis, ils traitent alors de ces plaintes-là et ils appliquent des règles qui sont dans les traités d'investissement, dans ces conventions d'investissement qui protègent les entreprises, les droits des entreprises multinationales. Donc, c'est pour ça, dans la plupart des cas, les entreprises multinationales ont raison. Ils reçoivent généralement des indemnisations, notamment au niveau de la Banque mondiale.
Pour Claude Vaillancourt, le choix des arbitres dans ces tribunaux n'est pas impartial.
C'est des tribunaux qui sont extrêmement favorables à l'entreprise privée. Donc, c'est pas vrai que les deux ont un poids égal là-dedans. Ils sont formés de grands avocats d'affaires, donc des experts. Il y en a un qui est choisi par le gouvernement, un qui est choisi par l'entreprise et un qui va faire consensus entre les deux. Ils vont délibérer sans que ce soit public, donc les portes fermées. Parfois, dans certains accords, il n'y a pas de mécanisme d'appel. Dans un autre, où sont en train de créer ça. Si on observe l'historique des différents jugements qui ont été portés par ces tribunaux, ben on observe que c'est vraiment favorable à l'entreprise. Et il y a une chose aussi qui est extrêmement importante, c'est que si les entreprises ont des droits de poursuivre les gouvernements dans les accords commerciaux n'ont aucun droit sur les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à l'intérieur d'un accord commercial pour les entreprises.
Amici Manirabona rappelle tout de même qu'il existe des cas où l'on donne raison au gouvernement, mais pour lui, ça n'est pas suffisant.
Il y avait un différend qui opposait les États-Unis à une multinationale, notamment pour avoir pollué l'environnement en Californie. On a tenu compte du fait que le gouvernement avait raison d'empêcher finalement la poursuite des activités là-bas. Mais le problème de ces tribunaux-là, de l'arbitrage, c'est qu'une décision peut être prise aujourd'hui aujourd'hui en disant, mais le lendemain, notre décision va contredire. Donc, il n'y a pas de jurisprudence comme c'est le cas dans les tribunaux classiques. Ça dépend de la composition du tribunal d'arbitrage. Il y a des arbitres qui sont sensibles à certaines questions, mais il y en a d'autres, malheureusement c'est la majorité, qui sont là pour promouvoir le commerce, promouvoir les affaires.
Pour le président d'Attac, la solution doit venir clairement des gouvernements. Certains exemples récents le prouvent.
Le gouvernement australien s'est fait poursuivre par une compagnie de cigarettes parce qu'elle essayait de réglementer l'affichage sur les paquets de cigarettes. Alors, la compagnie a poursuivi de Hong Kong et a gagné. Alors, ça a été comme humiliant pour le gouvernement australien de revenir sur une loi. Et un autre exemple aussi, c'est l'Allemagne qui a choisi démocratiquement de renoncer à l'énergie nucléaire pour des raisons qui sont comme évidentes. J'ai pas besoin d'expliquer. Or, il y a une compagnie suédoise qui est dans le domaine de l'énergie nucléaire qui a poursuivi le gouvernement allemand pour des sommes vraiment colossales parce que on avait renoncé à ça et qu'eux, il y avait des projets pour l'Allemagne allant en ce sens. Donc, on peut voir à quel point là ça affecte la démocratie et les gouvernements qui sont conscients de ça se retournent. Malheureusement, c'est ni le cas du gouvernement canadien, ni le cas du gouvernement du Québec.
Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, ça n'est pas si simple, même si les gouvernements souhaitent faire cesser ces ententes, celles qui ont été signées depuis des décennies ne peuvent pas être stoppées sans l'accord des entreprises étrangères. Et toujours selon Claude Vaillancourt, avant que ces accords ne soient stoppés, c'est plutôt la prise de conscience gouvernementale qui est importante, comme une première étape.
Le gouvernement canadien a perdu de nombreuses causes. Lone Pine Resources, c'est juste la plus récente. Il y en a quand même eu plusieurs, toutes perdues par le gouvernement canadien. Et notre gouvernement ne retient pas la leçon. Alors, comment ça se fait? Peut-être que ça n'a pas encore touché assez fortement l'opinion publique, mais quand même, il y a un problème réel là.
Pour connaître l'avis des grandes entreprises sur ces enjeux-là, j'ai contacté trois avocats de multinationales. L'un a invoqué le secret professionnel, les deux autres ont simplement décliné l'invitation sans raison précise. Mais si ces questions vous intéressent, vous pouvez vous référer aux travaux et thèses effectués à l'UDM, entre autres sur la bibliothèque numérique Papyrus de l'université. C'était un reportage d'Émilie Lamine pour la radio CIBL 101.5.
Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil des trésors satinés, dorés à souhait. Jardin d'expertise, mais la vérité m'épuise.